RMC, Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Le maillot jaune à terre, la sixième étape du Tour de France était tranquille jusqu'à la chute finale. Tony Martin ne repartira sans doute pas demain, alors que son coéquipier Zdeněk Stybar a gagné l'étape. Cyril Guimard va nous parler de tout ça dans un petit quart d'heure. Richard Gasquet vous a-t-il bluffé? Il est en demi-finale de Wimbledon, ce sera demain contre Novak Djokovic. Il a sorti Stan Wawrinka en quart, 5-7 s'il vous plaît. Lui dont on dit toujours qu'il n'a pas de mental, vous a-t-il fait changer d'avis? Son ancien entraîneur Eric Deblicker nous dit tout de sa métamorphose. C'est la pagaille hein, dans le foot français. Les clubs de Ligue 1 d'un côté, les clubs de Ligue 2 de l'autre. Est-ce une scission? Deux clubs de Ligue 2 monteront en Ligue 1 dès la fin de la saison au lieu de trois. Forcément, deux clubs de Ligue 1 descendront seulement. On protège les clubs de l'élite. Bernard Caillazot, le président de Saint-Etienne, est pour, il va nous le dire. Claude Michy de Clermont est prêt, lui, à faire la révolution. Et puis alors, c'est qui le buteur numéro 1 du 15 de France? François Trinduc veut l'être, il nous l'a dit hier. Frédéric Michalak, alors, l'ouvreur de Toulon est notre invité avant 19h en direct de Marcoussis. Tout de suite, c'est le journal des sports. Bonsoir Guillaume Laniel.
Bonsoir Virginie.
Et on débute donc avec cette sixième étape du Tour de France.
Exactement, une sixième étape qui emmenait les 189 coureurs d'Abbeville au Havre. On retrouve sur place pour RMC Christophe Cessieux. Salut Christophe.
Bonsoir.
La victoire, on vient de le dire, elle est pour le Tchèque Zdeněk Stybar, pour sa première participation d'ailleurs sur le Tour. Mais le fait le plus marquant, c'est cette chute du maillot jaune Tony Martin.
Effectivement, Tony Martin pris dans une chute dans la dernière ascension de la journée, à 1 km seulement de la ligne d'arrivée. Tony Martin à l'affût évidemment pour éviter la moindre cassure, pour éviter de perdre son maillot jaune, et qui a commis une erreur. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. En tous les cas, il était sur le côté gauche de la route, il a été déséquilibré et s'est écroulé sur un autre coureur, mettant également à terre Vincenzo Nibali, le vainqueur sortant du Tour de France. Alors si Nibali a pu reprendre la route sans souci, en revanche pour Tony Martin, eh bien c'est l'inquiétude, car Tony Martin a franchi la ligne d'arrivée avec plusieurs minutes de retard en ne pouvant pas poser la main sur son guidon. A priori, c'est la clavicule qui a souffert. Alors, y a-t-il fracture ou non? On en saura plus dans les minutes à venir. En tous les cas, on pourrait demain assister à un changement de maillot jaune, et Chris Froome pourrait bien récupérer le maillot jaune de leader à l'issue de cette sixième étape qui a vu le peloton prendre son temps aujourd'hui, puisque on est arrivé quasiment à 18h avec beaucoup de retard. Les coureurs du peloton, fatigués par 5 journées éprouvantes, ont eu le besoin aujourd'hui de récupérer. Mais pour Tony Martin, évidemment, c'est la poisse qui s'abat sur lui, le maillot jaune qui pourra sans doute pas prendre le départ de l'étape demain.
Merci Christophe, on rappelle donc ce classement général à l'issue de la sixième étape, avec Tony Martin toujours maillot jaune, même s'il demeure effectivement cette incertitude pour sa participation demain. Tony Martin leader avec 12 secondes d'avance sur Froome, 25 sur Vanguard Rennes, premier français. Tony Galopin 5e à 38 secondes du leader, et puis notez que l'érythréen Daniel Teklé Emanot, arrivé, pour désormais le maillot à poids. Demain, 7e étape, 190 km 500 entre Livarot et Fougères. Et puis, puisqu'on parle du Tour de France, sachez que l'un des favoris de l'épreuve, on en parlait, Christopher Froome, a un supporter à Marcoussis. Il s'agit de l'arrière du 15 de France, Scott Spedding, actuellement en pleine préparation pour la Coupe du Monde. Le rugbyman né en Afrique du Sud a dit à Maxime Rollin toute l'admiration qu'il vouait au vainqueur du Tour 2013.
On a passé 4 ans ensemble à St. John's College. Et même déjà à cet âge-là, il a fait le vélo tout le matin. Il se levait très tôt pour faire le vélo. Il était déjà très fort. Donc oui, de le voir maintenant, les choses qu'il fait pendant le Tour de France et tout ça, c'est pas un surpris. Mais oui, il est très fort. Et moi, je suis très content pour lui. Et je resterai lui pendant ce Tour de France. Et j'espère bien qu'il va gagner.
Voilà, propos recueillis par Maxime Rollin à Marcoussis.
Et à Marcoussis, on ne parlera pas de cyclisme, mais de rugby avec Frédéric Michalak, qui sera notre invité tout à l'heure, avant 19h. Mais pour l'instant, on va prendre la direction de Londres pour Wimbledon.
RMC Wimbledon 2015.
À Londres, nous attend l'envoyé spécial d'RMC, Eric Salio. Salut Eric.
Salut.
Et ça vient de tomber, Serena Williams est en finale de Wimbledon.
Ouais, victoire attendue face à Maria Sharapova, son ennemi préféré, puisque la Russe n'a plus battu l'Américaine depuis 10 ans et demi. Victoire 6-2, 6-4, et en finale, elle trouvera en face d'elle l'Espagnole Muguruza. Ça, c'est la surprise, parce que peu de personnes pouvaient miser sur l'Espagnole avant ce Wimbledon, mais on réalise qu'elle a réalisé un parcours extraordinaire.
Et on va revenir également sur la magnifique performance, hein, Eric de Richard Gasquet, un vainqueur hier en quart de finale en 5 manches de Stanislas Wawrinka. Performance, Eric, d'autant plus remarquable qu'elle était inespérée il y a encore quelques semaines.
Ouais, il faut se souvenir que le 15 mars dernier à Indian Wells, Richard Gasquet était contraint à l'abandon dès le premier tour. Un nouveau coup de poignard dans le dos comme l'année précédente, et de nouvelles idées noires dans le vol Los Angeles-Paris. Plus tard, heureusement, un nouveau diagnostic médical tombe. Il est plus précis, il s'agit d'une petite hernie discale. Donc, et pendant 2 mois, il va se soigner et surtout se soustraire à une discipline quotidienne. Une période que Sébastien Grosjean, l'un de ses deux coachs, analyse avec justesse.
Il a pris conscience que voilà, c'était un moment difficile, mais qu'il fallait le faire. Et c'est peut-être la première fois où il a pris conscience de... Juste de ne pas avoir mal, ça va l'aider à aller sur le court. Il a pris conscience que pour arriver sur un tournoi, il faut être préparé, il faut être déjà prêt au combat dès le premier tournoi. Et ça passe par un vrai entraînement régulier pour être compétitif sur tous les tournois et être capable d'enchaîner les performances.
Merci Eric Gasquet, Djoko et Federer Murray. Ce sera donc demain sur les courts londoniens.
Et on va continuer à parler de Richard Gasquet et de sa transformation avec Eric Salio, avec un autre Eric également, Eric Deblicker, l'ancien entraîneur de Richard Gasquet. Ce sera à 18h30. On va maintenant passer au football, actualité chargée hein, aujourd'hui.
Ouais, c'est le moins que l'on puisse dire. Mohamed Bouafsi nous a rejoint en studio. Salut Mohamed.
Salut.
Tu étais au conseil d'administration de la Ligue ce matin. L'info principale, c'est qu'il y aura bien 2 montées, 2 descentes entre la Ligue 1 et la Ligue 2 la saison prochaine. Décision qui provoque une crise au sein du football français.
Oui, un chaos sans précédent. Ce sont les mots d'un président de Ligue 1 qui résume la situation. Le football français n'a jamais été aussi proche d'une scission entre ces deux championnats majeurs. Les clubs de Ligue 1 demandent désormais une séparation entre et la Ligue 2. Objectif de la séparation, retrouver une compétitivité face au championnat anglais ou espagnol. Une idée qui provoque la colère des présidents des petits clubs. Certains réfléchiraient même à révoquer le conseil d'administration de la Ligue de football professionnel pour bloquer la Ligue 1. D'autres évoquent un boycott de la reprise de la Ligue 2. Une ambiance tendue qui remonte jusqu'aux hautes sphères et qui inquiète le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët. Les instances du football français traversent l'une des crises les plus graves de son histoire.
Merci Mohamed pour toutes ces précisions. Une réaction à l'issue de ce conseil d'administration, celle de Frédéric Thirier, le président de la Ligue, navré par la situation.
C'est vrai qu'il est dommage que, alors que le football français donne une belle image sur le plan sportif, que les instances elles-mêmes ne donnent pas une bonne image. Vous savez, on est, je dirais, la seule entreprise, entre guillemets, où tous les associés, c'est-à-dire les clubs, sont en même temps concurrents les uns des autres. Ça crée forcément un climat difficile. Et moi, mon rôle là-dedans, c'est quoi ? C'est d'essayer de trouver un chemin commun pour que les gens avancent à peu près dans la même direction.
Voilà, Frédéric Thirier au micro de Mohamed Bouafsi. On rappelle également que le Conseil d'État a annulé l'accord à 50 millions d'euros entre la LFP et l'AS Monaco. Le club monégasque peut donc conserver son siège social hors de France tout en bénéficiant de ses avantages fiscaux. Une dégringolade pour l'équipe de France. Les Bleus ont perdu, Virginie. 13 places au classement FIFA. Maureen Lehoux, bonjour.
Bonjour.
Alors, comment s'explique cette chute au classement ?
Elle devait être 2 défaites anecdotiques, mais les déroutes consécutives contre la Belgique puis l'Albanie en juin dernier auront finalement eu plus de conséquences que prévu. L'équipe de France passe de la 9e à la 22e place au classement FIFA, loin, très loin de nations prestigieuses, mais surtout elle se place derrière la Roumanie, 8e, le Pays de Galles, 10e ou encore la Slovaquie, 15e. La France n'avait pas fait pire depuis septembre 2019. L'après Naïsna et son 27e rang. Au-delà de l'image, ce nouveau classement a des répercussions sur le futur des Bleus. Sortie du top 10, la France perd son statut de tête de série pour le tirage au sort des poules de qualification à la Coupe du Monde 2018 et pourrait donc affronter de grosses écuries européennes. Mais il reste encore un espoir pour les Bleus, une requête déposée ce matin par l'UEFA. Elle demande à ce que la France soit dans le même groupe lors du tirage au sort que l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas. Objectif, protéger ces équipes et faire en sorte qu'elles ne se rencontrent pas.
Merci Maureen et on rappelle que ce classement FIFA il est dominé par l'Argentine devant l'Allemagne.
Et quelques petites infos transferts aussi ça, oui. Aujourd'hui.
Oui, ouais, exactement. Danilo au Real Madrid, c'est officiel. Hein. Le défenseur du FC Porto s'est engagé pour 6 ans. Le joueur a été acheté pour plus de 30 millions d'euros. En France, Pierrick Valdivia passe de Lens, relégué en Ligue 2, au Gazélec Ajaccio, promu en Ligue 1. Enfin, Bastian Schweinsteiger pourrait quitter le Bayern Munich pour rejoindre Manchester United.
Si vous voulez voir une pluie d'étoiles, ce soir, ça se passe à Lausanne, au meeting de Lausanne.
Ouais, c'est pas mal. C'était déjà pas mal au meeting Areva samedi dernier. Là, ça va être un super spectacle. Et ce, malgré l'absence du Bolt. On va d'ailleurs filer à Lausanne pour retrouver François-Xavier de Châteaufort, l'envoyé spécial d'RMC. Salut FX.
Salut Guillaume.
Et on suivra tout particulièrement la performance de notre Français Renaud Lavillenie en quête de rachat après sa contre-perf samedi au meeting Areva de Paris.
Oui, en champion et compétiteur qu'il est, Renaud Lavillenie ne supporte pas la défaite. Sa cinquième place avec 5m71 samedi dernier au Stade de France l'a piqué au vif. Le recordman du monde du saut à la perche est ici à Lausanne pour retrouver de l'altitude et montrer à la concurrence qu'il s'agissait d'un simple accro.
C'est très important de pouvoir être capable de rebondir, de retrouver des situations similaires directes. Et puis bah surtout de rectifier le tir. J'ai pas l'habitude de rater deux compétitions d'affilée, donc je fais en sorte d'être meilleur et de rectifier le tir. Quoi.
Renaud Lavillenie visiblement émoussé un samedi soir, peut-être en raison de la chaleur et de diverses sollicitations les jours précédents, a essayé de bien récupérer, d'autant que les concours vont s'enchaîner avec les championnats de France en 3 jours, Monaco dans une semaine et Londres dans un peu plus de 15 jours. Ce soir, Renaud Lavillenie veut marquer un grand coup, ça tombe bien, il retrouvera tous les perchistes déjà présents samedi dernier au Stade de France, un concours aux allures de revanche, donc objectif l'emporter pour Renaud si possible en battant le record du meeting à 5m91, une barre a priori à sa portée. Ensuite, si la forme est vraiment revenu, tout est permis.
Merci Félix, on se retrouve tout au long de la soirée à Lausanne évidemment pour les performances de nos athlètes et puis la course.
Et puis Maryse Evangépé sera là aussi en studio.
Maryse, exactement. L'autre fait vraiment marquant à ne pas louper ce soir, ce sera 21h17 Virginie, le 100 mètres où vont se défier Tyson Gay, Asafa Powell et Justin Gatlin. Il ne manque qu'Usain Bolt.
Et ce sera dans l'after 21h17 précisément. On suivra le 100 mètres. Merci Guillaume, à tout à l'heure.
À tout à l'heure.
19h. 18h16, c'est maintenant l'heure de faire le point sur les courses épiques du jour. Laurent Guédard, on courait à Chantilly aujourd'hui.
Salut Virginie, le quintet a été remporté cet après-midi par le 9 Loline, la deuxième place pour le 3 Noré, la troisième pour le 4 Lunesque, c'est ma dernière minute le 8 Morini qui se classe quatrième devant le 2 Moonlight Swing 9, 3, 4, 8 et 2, plus de 197 000 euros. Dans l'ordre, demain, Quintet Plus en nocturne à Cabourg, 2875 mètres à parcourir pour 16 trotteurs âgés de 7 et 8 ans sur deux échelons de départ. Je vous conseille tout d'abord le numéro 2, Utsao de Blary, qui traverse une très belle période de forme. Son entraîneur fait cette fois-ci appel au crack driver Franck Nival. Il peut tout simplement l'emporter. Pour les amateurs d'outsider, je me méfie de l'As Tequila du soir. Il est vrai que ses dernières performances n'ont rien d'extraordinaire. Toutefois, comme elle adore ce tracé très particulier, elle peut frapper un grand coup. Je vous rappelle que d'autres informations des paris sont disponibles sur rmcsport.fr.
PMU.fr, paris sportifs, paris hippiques, poker. Jouer avec excès comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.
Et Cyril Guimard est au Havre, on va le rejoindre dans 2 minutes pour parler notamment de la chute de Tony Martin, le maillot jaune de ce Tour de France. A tout de suite.
RMC Intégral Tour. Intégral Tour.
Regarde, tu vois les traces de roue? Regarde, ça c'est du Moser, ça. C'est même du 23 mm.
Virginie Fulpin.
Tu sais ce que c'est? C'est l'Allemand qui m'a doublé quand j'avais crevé tout à l'heure.
Il est 18h19 sur RMC, c'est l'Intégral Tour. On est ensemble jusqu'à 21h avec Cyril Guimard en direct du Havre. Bonsoir Cyril.
Bonsoir Virginie, bonsoir à tous bien sûr.
Et le fait marquant du jour, c'est le maillot jaune à terre, hein, Tony Martin qui a chuté en fin d'étape. C'est presque de sa faute en plus.
Oui, alors c'est pas très net hein, sur les images que l'on a pu voir. On n'a pas vu de ralenti. Moi, j'ai plus ou moins le sentiment qu'il a peut-être toucher quelque chose du côté des balustrades parce qu'il y a un petit décrochage puis la chute vient un peu plus tard. Oui, c'est lui qui de toute façon est à l'origine de la chute qui va entraîner Quintana mais également Nibali, mais heureusement pour les deux autres favoris du Tour, aucune conséquence. En ce qui concerne Tony Martin, bien malheureusement sur ce que l'on a vu, ça veut dire que Tony Martin ne repartira pas demain matin. On l'a vu néanmoins.
C'est la clavicule, aller. C'est ça, Cyril. Donc a priori, c'est fini.
Oui, clavicule, vraisemblablement ou l'acromio-claviculaire. Bon, c'est difficile, mais de toute façon, la façon dont il dont il se servait de son bras, ou ne pouvait plus s'en servir, ne pouvait plus le mettre sur le guidon. Donc ça veut dire qu'il est out pour la suite. C'est quand même un coup dur pour l'Allemand qui jusqu'à maintenant avait fait un parcours sans faute, qui était allé chercher à la pédale ce maillot jaune dans l'étape des pavés. Il avait pris tous les risques ce jour-là. Aujourd'hui, il était placé de façon justement à ne pas prendre de risques. Et puis il y a ce petit grain de sable qui fait que malheureusement, à moins d'un kilomètre de l'arrivée, il va à terre et provoque donc par voie de conséquence une chute collective qui a peut-être même d'ailleurs faussé un peu la fin de course, puisque on s'est retrouvé plus qu'avec une dizaine de coureurs pour disputer la victoire finale. Et puis l'histoire se termine, je vais pas dire bien parce que ça, on ne peut pas dire cela, mais c'est un de ses équipiers qui va l'emporter.
Oui, c'est un peu le chaud-froid pour Etix Quickstep.
Voilà. Pour Stibar qui passe la ligne, il est heureux comme il n'est pas permis, et puis après il apprend que le maillot jaune va changer d'équipe, puisque vraisemblablement il sera demain sur les épaules, ou il va revenir sur les épaules de Froome.
Alors Étienne nous appelle au 32-16. Bonsoir Étienne.
Oui, bonsoir à tout le monde.
Bonsoir Étienne.
Pour vous, c'est quand même un peu de la faute de Tony Martin lui-même ?
Moi, mon analyse personnelle par rapport à cela, c'est que je ne pense pas que ce soit le rôle du maillot jaune d'aller de l'avant pour défendre ou pour amener un de ses équipiers. Il y a d'autres personnes qui sont capables de faire ça à sa place, surtout que lui, son maillot jaune n'était pas en danger. Et pour moi, c'est une erreur tactique de sa part. Bon, en plus, il en fait une deuxième, c'est l'histoire de la chute. Mais quelque part, je pense qu'il a quand même été au charbon alors que ce n'était pas sa place.
Voilà.
Oui, ça se discute, hein. Parce que lorsqu'il roule en tête, comme on l'a vu encore hier d'ailleurs, bah, quand il est en première position, c'est là où il y a le moins de risques. Hein. Et puis d'un autre côté, quand il a besoin d'équipiers, ses équipiers roulent pour lui. Là, il va donner un petit coup de main dans le final. C'est son tempérament. Et puis ensuite, il faut savoir quelles sont les consignes qu'on lui a données. Le coureur, il fait pas, si on lui dit, non, tu viens pas dans le sprint, tu restes en retrait, ou si on lui dit, ou si on lui demande de continuer à travailler pour ses sprinters.
Oui, c'est ça, il écoute les consignes d'équipe, de toute façon, tout maillot jaune qu'il est.
Oui, en règle générale, vous savez, vous avez un patron, puis vous avez une fiche de paye. Donc, faut quand même jamais l'oublier. Mais, non, là, je pense que c'est pas lié du tout au fait qu'il se trouve en tête. D'ailleurs, tous les leaders essayent de rester en tête justement pour éviter les chutes, pour éviter les cassures, puisque au moment où il tombe, il a quand même à côté de lui Nibali, mais il a également Quintana. Donc ils étaient pratiquement au même niveau de la course. Non, je pense pas qu'ils fassent une faute tactique ou de stratégie. Il y a quelque chose qui a provoqué sa chute, on ne sait pas, peut-être une denture qui a sauté. Moi, je me demande si éventuellement il n'aurait pas touché quelque chose du côté des balustrades, parce qu'il y a un tout petit décrochage, mais on le revoit pas bien. Hein. J'arrive pas à revoir les images.
Il risque de s'exprimer ce soir, j'imagine, Tony Martin, ou en tout cas l'entourage de Etix Quickstep, ne serait-ce que pour nous annoncer s'il participe ou pas probablement son forfait. Oui.
Non, là, c'est pas possible. Alors, il va partir avec le bras en écharpe.
Oui, non, il peut plus le tenir, là, en fait. Oui, merci beaucoup, Étienne, d'avoir appelé le 32-16. À très bientôt sur l'antenne d'RMC. Christophe Cessieux nous appelle tout de suite en direct du Havre. Christophe.
Ouais, effectivement, Virginie, on a des informations concernant Tony Martin qui est allé passer des radios pour savoir où il en était également. Il dit, j'ai joué de malchance, je ne me rappelle même pas très bien comment ça s'est passé. J'ai touché la roue arrière du coureur qui me précédait. Il me semble que c'est dommage, c'est le tour. La chance et la malchance se sont étroitement associés malheureusement. J'espère que je pourrai repartir. Il faut voir un peu l'ampleur des dégâts. Donc pour l'instant, il n'y a pas d'abandon officiel de Tony Martin. Il est en train de passer des radios de son épaule et de sa clavicule.
Merci Christophe. Eh bien,
on a la réponse. Il a touché une roue.
Il a touché une roue, mais le fait qu'il ne dise pas qu'il abandonne, là, il y croit vraiment encore. C'est-à-dire que si rien n'est cassé, il peut repartir parce que l'arrivée là c'était compliqué quand même.
Oui, non, il espère, il attend d'avoir confirmation, parce que dans sa position on espère on veut croire au miracle.
Juste une chose, Cyril, si jamais, je ne veux pas lui porter la poisse, hein, si jamais il doit abandonner Tony Martin, demain, on a un maillot jaune ou on n'a pas de maillot jaune? Parce qu'il a quand même terminé l'étape, donc comment ça se passe?
Bah, là, il va y avoir une information qui va être donnée. S'il dit qu'il repart demain, il partira avec le maillot. Si il est en train de passer des radios, si le service médical constate effectivement des fractures, c'est le service médical lui-même qui lui interdira de partir. Donc logiquement, le maillot changera d'épaule à partir du moment où il ne part pas.
Merci beaucoup Cyril Guimard pour ces précisions. On va te retrouver à 19h avec Christophe Sessieux, avec toute l'équipe au Havre. Vous aurez sans doute à ce moment-là encore plus de précisions sur Tony Martin, qui va passer des examens pour savoir s'il y a quelque chose de cassé ou pas et s'il prend éventuellement le départ de la 7e étape demain. Merci beaucoup Cyril Guimard. D'ici là, nous, on va essayer de comprendre ce qui a changé chez Richard Gasquet. Oui, parce qu'il a beaucoup changé. La preuve, le revoilà en demi-finale de Wimbledon demain. À tout de suite.
RMC Intégral Tour. RMC Intégral Tour. Virginie Fulpin.
C'est la plus dure, on le sait. Et là, on voit le champion Wawrinka qui a beaucoup d'expérience, qui est pas du tout en panique. C'est un moment difficile à passer. Grosse première. Le retour est dedans. Ah, ça c'est bien. Le retour est dedans. Ça sort. Richard Gasquet qui sort. Stan Wawrinka. Énorme victoire du Français. Peut-être la plus belle de sa carrière. 11-9 au 5e set. Il est en demi-finale de Wimbledon pour la deuxième fois de sa carrière.
Alors, il vous a pas fait vibrer Richard Gasquet peut-être hier sur RMC en battant Stan Wawrinka en quart de finale de Wimbledon? Il a fait vibrer Eric Salio. Salut Eric, notre envoyé spécial à Wimbledon.
C'est vous, votre petite voix derrière?
Non, c'est Sarah Pitkovski qui se balance. Hein, j'ai décidé de balancer, exactement. D'accord. C'est Sarah Pitkovski qui était très heureuse, qui sera encore là demain avec toi d'ailleurs pour nous faire vivre la demi-finale face à Novak Djokovic. Nous sommes en ligne avec notre invité Eric De Blicker, ancien entraîneur de Richard Gasquet. Bonsoir Eric De Blicker.
Bonsoir.
Bonsoir Eric.
Alors, bonsoir.
Alors Eric De Blicker, est-ce que vous avez vibré, vous avez été étonné des ressources que pouvait avoir Richard Gasquet dans cette fin de cinquième set face à Stan Wawrinka hier?
Vibré, bien évidemment, mais ce que j'ai surtout trouvé, c'est du premier au dernier point une attitude très positive, une attitude de combattant. Alors on sait que Richard, par moment, est capable de sortir des matchs comme ça. Il l'avait fait en 2007 quand il avait battu Roddick, mais la gestuelle, le comportement était plus complet, j'ai trouvé hier face à un joueur comme Wawrinka. Et moi, je me suis souvent dit pendant le match qu'il avait les ressources pour pouvoir aller s'imposer face à Wawrinka, et quelque part je trouvais qu'il avait un petit peu plus de tennis et de possibilités dans son panel que Wawrinka. C'est curieux, mais c'est comme ça que j'ai ressenti le match.
Eric Salio, toi tu as vu Richard Gasquet hier soir après sa victoire, est-ce qu'il s'est bluffé lui-même? Il se croyait capable lui-même de sortir Wawrinka de cette manière-là?
Ça, c'est une bonne question, et il n'a pas vraiment répondu à cette interrogation, Richard, parce que on le sent encore un peu, pas un peu timide, mais il se sent un peu petit par rapport aux trois autres escapés du carré magique. Mais il y a une véritable histoire d'amour entre ce coureur numéro 1 et Richard, parce que c'est incroyable, il a remporté les trois plus belles victoires de sa carrière. Eric était présent lors du fameux match contre Roddick, mais quelques années plus tard, il y a eu la médaille, enfin le quart de finale qui donne la médaille de bronze en double, et puis ce match. Mais
au JO de Londres, donc.
Au JO de Londres avec Julien Beneteau, donc c'est un cours magique, mais c'est pas un cours des miracles, parce que Richard, on sait qu'il a une technique fantastique, et c'est pas Eric Demicker qui me dirait le contraire, c'est un petit génie quelque part. Et je me souviens que de Joe Tsonga qui me disait lors d'un match de Coupe Davis, heureusement j'avais Mozart à mes côtés. C'est vrai, il sait tout faire. Il manquait peu de choses pour que
Justement, le fait qu'il sache tout faire, que ce soit le Mozart des cours de tennis, on dit ça depuis années. Eric De Blicker, vous sentez un changement là, mental notamment chez Richard Gasquet?
Moi, je sens une continuité et une maturité qui vient chez Richard peut-être plus tard que ce qu'on espérait qu'il nous produise depuis des années. Parce que oui, je reprends ce que disait Eric, le petit Mozart. Ok, mais le petit Mozart, ça suffit pas pour devenir dans les tout meilleurs joueurs du monde. Je crois que il mûrit au fur et à mesure. Et je reprends aussi ce que disait Eric. Il n'est pas encore véritablement conscient du résultat face à Wawrinka. Moi, je pense qu'il était conscient qu'il pouvait battre Wawrinka. L'interrogation qu'on peut avoir, c'est sur les 3 ou 4 meilleurs joueurs qui sont quand même au-dessus du lot, dont ne fait pas partie Wawrinka, même s'il a gagné 2 tournois du Grand Chelem, c'est-à-dire Djokovic, Federer, Murray et Nadal. Je pense que Richard, dans sa tête, se dit ou est sûr de pouvoir en tous les cas faire un match, de pouvoir éventuellement battre des joueurs qui sont entre en fait 5, 15 et 20e mondial. Ce qui va être intéressant, c'est comment il va aborder demain son match face à Djokovic en se disant ben, je peux à la limite, tel que le tennis que je produis depuis le début de cette quinzaine, je peux aller pousser Djokovic dans ses derniers retranchements et éventuellement le battre. Et c'est ça qui sera très important pour demain.
Mais d'ailleurs, il se sent presque tout petit à côté des 3 autres. Eric, c'est toi qui l'as vu hier, qui l'a interviewé. On va l'écouter, Richard Gasquet, quand il parle de lui et des 3 autres demi-finalistes.
Je sens quand même un peu un palmarès un peu moins étoffé, quoi. Ça, je vais pas te dire le contraire. Il y a 2 Grand Chelem, 8 et 17. Les 3 demi, bon, on va dire que c'est pas pareil quand même, quoi. Non, je suis heureux d'être là. Et c'est clair que c'est beau, en tout cas. Ouais. C'est beau de se retrouver là, parce que je suis vraiment un fan de tennis déjà. Donc se retrouver avec des joueurs comme ça, c'est magnifique, quoi. En tout cas, on va essayer de faire le maximum pour aller plus loin, quoi. Mais c'est vrai que c'est super pour moi de me retrouver dans le dernier carré de Wimbledon, quoi. Ça, c'est sûr.
Alors, c'est à la fois de l'humilité et en même temps, c'est un peu drôle, quoi. Je trouve qu'il a l'air plus détendu que d'habitude, moi, parce qu'il fait un peu d'humour aussi, Richard Gasquet, pendant ce Wimbledon, là, non?
Oui,
Vas-y, Eric.
Bon. Non, mais oui, mais je pense que c'est la maturité aussi, c'est l'expérience. À un moment donné, on le trouvait, et notamment vis-à-vis de la presse ou vis-à-vis de, des gens qui du regard que les gens pouvaient porter sur lui, un petit peu en dedans, un petit peu timide. Aujourd'hui, l'expérience, sa carrière, les matchs, les très bons matchs, et puis les gamelles qu'on peut aussi avoir quand on dans une carrière, tout ça, ça le fait grandir. Et puis il y a eu cet arrêt quand même un petit peu récurrent, puisque l'année dernière il en avait déjà eu un, et puis là un deuxième arrêt en début de saison pendant 2-3 mois, où à un moment donné il s'est dit mais et si j'étais amené à arrêter à un moment donné ma carrière. Et il s'est dit, je sais qu'on en a beaucoup discuté ensemble, parce que il n'y avait pas grand-chose à faire, il pouvait pas s'entraîner, etc. Et il s'est vraiment aperçu que le tennis, c'était sa passion, c'était son truc, que ça lui manquait, qu'il avait besoin d'aller s'entraîner. Donc tout ça, ça fait mûrir, ça fait grandir, et quelque part, c'est plus facile de pouvoir en parler, ou parler tout simplement de son tennis.
Éric de Blicquer, l'ancien entraîneur de Richard Gasquet, est avec nous en direct sur RMC. Éric, salut, on va reparler de ce moment qui est peut-être le déclic pour Richard Gasquet, là, le moment où il s'est dit tout peut s'arrêter, c'est-à-dire qu'il a eu très peur au printemps là, hein.
C'était Indian Wells, c'était le 15 mars, et c'est marrant parce que j'ai croisé Richard il y a une heure et je lui ai dit, mais t'étais dans quel état quand t'as pris l'avion Los Angeles-Paris? Et il m'a dit en rigolant, j'étais limite chaise roulante. Et rigolait pas là. Et Eric l'a très bien dit. Je crois qu'il a eu très peur que sa carrière s'arrête brutalement et que ça aurait été un vide mais considérable. Parce qu'il avait déjà connu ça avec son petit problème de contrôle positif, et le pauvre, il était reclus chez lui. Il avait très mal vécu. Mais sans le tennis, Richard, bah ouais, qu'est-ce qu'il ferait? Donc je pense qu'il a mis des bouchées doubles. On a parlé aussi avec Paul Quétin. Il s'astreint à une discipline quotidienne. Je pense qu'Eric peut peut-être mieux en parler, parce que maintenant il fait beaucoup d'exercices de gainage pour que ce problème au dos, cette hernie discale, ne ressurgisse pas.
C'est-à-dire que c'est devenu, même s'il a changé mentalement, il a changé aussi physiquement. C'est devenu quelqu'un qui bosse physiquement, parce qu'il n'avait pas cette réputation-là non plus, hein.
Oui, alors c'est très curieux, parce que c'est toujours le regard que les gens portent. Bon, moi j'ai quand même entraîné beaucoup de joueurs en France, et Richard, c'est un paradoxe, hein, c'est sans doute un des joueurs qui s'entraînait le plus. Alors après, le problème physique, son travail physique, parce qu'il travaillait beaucoup sur le court, peut-être un petit peu moins d'un point de vue physique. Mais tout ce qui est, et là Eric vient de le dire, le petit gainage supplémentaire, le petit truc qu'il faut faire avec le kiné, le petit renforcement, ça c'est quelque chose qu'il aimait pas faire. Il s'astreignait pas à la fin d'une journée d'entraînement éventuellement à être dans les détails qui sont excessivement importants quand vous voulez franchir une marche supplémentaire. Ça, il n'en avait pas forcément conscience, ou il n'en éprouvait pas le besoin. mais par rapport justement à ces petits bobos qu'il a rencontrés, voire qui étaient des bobos importants, bah, il était obligé de le faire. Et ça, ça lui donne une discipline et des rigueurs qui est excessivement importante pour tenir la cadence face à des joueurs comme Wawrinka hier, où à aucun moment on s'est dit, tiens, il a Richard physiquement. Non, Richard physiquement, il était là. Après, il y aura éventuellement aussi pour demain... comment il récupère sur des efforts qui sont quand même des efforts importants, plus de 4 heures de match. Et ça, c'est peut-être encore des choses qu'il a encore à améliorer, mais il s'améliore petit à petit. Alors, c'est pas des fulgurances comme son revers, c'est des efforts qui viennent petit à petit. Et encore une fois, c'est ce que je dis, on l'a connu à 15 ans, à 29, il a pris le temps de s'améliorer. Et ça vient peut-être tard, mais ça vient. Et c'est ce qu'on peut lui souhaiter de pire, quoi, que ça continue à venir.
Juste une dernière question très rapidement, Eric de Blicker. À Roland-Garros, cette année, il a croisé la route de Novak Djokovic. Ça a été 3 petits sets pour le Serbe. Pourquoi ça peut être différent demain?
Alors, ça peut être différent parce que, tout simplement, d'abord, il vient de battre Wawrinka, qui a battu Djokovic en finale. Donc, déjà, il peut se dire, si lui l'a fait, Et puis, on en a discuté un tout petit peu comme ça, parce que on s'appelle de temps en temps, et il me parlait du match d'Anderson contre Djokovic. Anderson, il l'a battu à Roland-Garros, et Anderson contre Djokovic, qu'est-ce qu'il a fait? Il a failli d'abord le sortir, et c'est un petit miracle que Djokovic soit en demi, en tous les cas, par rapport à ce match-là. Et Richard avait battu Anderson. Et qu'est-ce qu'il a fait, Anderson? Il a servi, il l'a bousculé, il a joué en 2-3 coups. Donc, c'est des petits signaux qui disent, mais eux, ils l'ont fait ou ils n'ont pas été loin de le faire. Moi, j'ai battu ces mecs-là. Pourquoi? Et c'est la question la plus importante sur son état d'esprit. Pourquoi est-ce que je ne serais pas capable de battre? Donc je rentre demain sur le terrain en essayant de me dire, ou surtout en me disant, je suis capable de battre Djokovic.
Merci beaucoup Eric de Blicker d'avoir passé quelques minutes avec nous sur RMC pour parler de Richard Gasquet. Gasquet face à Novak Djokovic, c'est demain en demi-finale de Wimbledon, c'est à 14h. Ce sera en direct sur RMC avec Eric Salio, avec Sarah Pitkowski également. On va rejoindre dans quelques instants quelqu'un d'autre qui bosse beaucoup physiquement en ce moment, c'est Frédéric Michalak avec le 15 de France.
RMC Intégral Tour, Virginie Fulpin.
Il est 18h46 exactement, c'est l'intégral tour jusqu'à 21h sur RMC et dans 72 jours, ce sera la Coupe du Monde de rugby.
RMC Rugby 2015.
Et Frédéric Michalak est notre invité en direct de Marcoussis. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir.
Demi d'ouverture de Toulon et du 15 de France. Vous êtes aux côtés de Maxime Rollin, nos spécialistes rugby. Salut Maxime.
Bonsoir tout le monde.
Alors Frédéric, vous avez buté ce matin, je crois, pendant un bon moment. Comment ça se passe pendant cette préparation là? Vous allez buter tous les jours là pendant les 72 jours qui nous séparent de la Coupe du Monde?
Ben on va faire ce qu'on fait en club. Hein. On essaie de garder le rythme depuis même plusieurs années. Et il faut surtout, c'est un peu comme le geste du golfeur. Il faut toujours s'y remettre et presque reprendre les bases à chaque fois, chaque jour, parce que voilà, c'est un geste qui doit être fait en permanence. Et puis voilà, donc on essaie de le faire au maximum.
Et ça se passe comment? Vous êtes tout seul ou également avec les autres buteurs éventuels du 15 de France?
Actuellement, on fait des séances collectives, mais aussi tout seul quand il y a des plages de repos, parce qu'on est assez actif actuellement sur tout ce qui est musculation, sur course, sur physique, cross-training, voilà. Donc il y a peu de plages où on peut buter, alors ça, on a les ballons à dispo, on y va quand on veut.
Et justement Frédéric, avec toute cette préparation physique et ces grosses séances de travail, est-ce que la réussite est quand même là au niveau du pourcentage des tirs au but ou de la qualité du jeu au pied que vous travaillez?
Ben, il est égal, parce qu'on voilà, on le fait aussi en club, et moi pour ma part j'essaie de surtout travailler toute la zone du geste, pas forcément toujours face au poteau, mais sur des zones diverses sur un terrain ou ailleurs. Voilà, donc on a différents exercices pour cela.
Frédéric, on a parlé hier avec François Trinduc, son objectif c'est d'être le buteur des Bleus, vous aussi, il y a une vraie concurrence à votre poste. Qu'est-ce que vous avez envie de lui répondre là, aujourd'hui?
Non, j'ai rien à répondre à François en particulier. François est un super joueur, un bon buteur aussi. Je crois que j'ai surtout envie que l'équipe de France aille au bout de cette Coupe du Monde. Et puis c'est ça l'objectif, notre objectif commun. Voilà. Après, ma réussite personnelle ne viendra que des autres aussi, donc j'en ai conscience.
Vous avez été blessé en fin de saison, Frédéric Michalak. Maintenant, vous en êtes où là? Tout va bien, votre main?
Oui, tout va très bien. J'ai retrouvé toutes mes sensations physiques. Après, c'était juste une petite blessure à la main qui m'a éloigné quelques semaines des terrains, mais j'ai pu déjà travailler physiquement en ayant le staff tricolore au téléphone pour anticiper un peu cette préparation aussi et commencer à me préparer.
Frédéric, c'est votre troisième préparation de Coupe du Monde. Est-ce que vous l'abordez différemment?
Je l'aborde, oui, avec un peu plus d'âge. Je suis aussi excité qu'un gamin de 20 ans, mais je prends jour après jour. J'essaie de vraiment de profiter de chaque moment. Et puis, c'est très épuisant, les débuts de préparation, parce qu'on a mal partout. On a tous les muscles qui sont endoloris, mais... On essaie de garder malgré tout le sourire, ce qui permet de penser aussi à autre chose.
Mais est-ce qu'à 32 ans, c'est plus dur qu'à 20 ans, ou alors avec l'expérience, justement, on sait mieux gérer son corps?
C'est un peu plus dur physiquement, on va dire. Mais après, avec l'expérience, on arrive à gruger une ou deux séances.
Ça a des avantages finalement aussi, cette expérience.
Oui, ça a des avantages et des désavantages, mais pour l'instant, je fais toutes les séances, donc... J'ai encore un corps de jeune.
Frédéric, après une petite semaine, pas tout à fait de préparation, est-ce qu'on ressent quelques ondes positives, en vue notamment de, et qui laissent présager peut-être une bonne Coupe du Monde?
Franchement, je sais pas quoi vous dire. C'est des réponses qui sont difficiles à donner. Comment je peux savoir à 3 jours d'une préparation si on sera bon? On a fait des bonnes préparations en demi-celt, on a perdu les premiers matchs, on a fait des bonnes préparations en demi-pro aussi. Je peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est que le groupe, bien sûr, il vit bien. Il y a vraiment une bonne ambiance. Les joueurs travaillent, sont sérieux. Mais je peux pas vous dire si on fera une bonne Coupe du Monde. En tout cas, on va se battre pour en faire une bonne, ça c'est sûr.
Vous parlez de bonne ambiance. Moi, j'ai entendu parler de photos, de chambrage. Il paraît que vous êtes la première victime du stage de préparation. Mais peut-être nous en dire un petit peu plus, Frédéric.
Non, il n'y a pas de victime particulière. C'est vrai qu'on est un groupe qui vit bien et on vient se chambrer. Après, si vous attendez de moi que je vous raconte la vie de groupe dans l'intérieur, je ne le ferai pas.
Ah, mais juste une photo, c'était quoi?
Je vous le jure, hein, mais après, il y en a d'autres qui le font peut-être, mais ça... Ça, c'est leur problème à eux.
Juste une chose, est-ce que vous regardez d'autres sports à Marcoussis? Je crois que vous aimez bien le tennis, Frédéric. Est-ce que vous suivez, par exemple, ce que fait Richard Gasquet à Wimbledon?
Bah oui, bien sûr. J'étais devant hier, sur mon téléphone aussi, quand j'ai pas pu le regarder à la télé. Mais oui, j'ai suivi tout le match. Bien sûr, on lui souhaite d'aller au bout.
Merci beaucoup, Frédéric Michalak, d'avoir passé quelques minutes avec nous dans l'intégral tour sur RMC.
Merci à vous.
Bonne préparation. Merci, et à très bientôt.
À bientôt, au revoir.
Il est 18h52 sur RMC et Jacques Chirac va finir par avoir raison.
RMC, France Olympique.
On va se baigner dans la Seine. Quand il était maire de Paris en 1988, il avait promis que les Parisiens pourraient se baigner dans une Seine propre à la fin de son mandat. Bon, ça a pris un petit peu de retard, mais aujourd'hui, c'est Anne Hidalgo qui voudrait que les Parisiens se baignent dans leur fleuve après les JO de 2024. Elle imagine que si Paris obtenait les Jeux Olympiques, l'épreuve de natation du triathlon se passerait dans la Seine. Bonsoir Camille Gelpi.
Bonsoir.
Alors c'est pas une nouveauté complète non plus, hein, parce que le triathlon de Paris a déjà eu lieu avec l'épreuve de natation dans la Seine, c'était entre 2007 et 2012. Mais bon, c'est vrai que depuis c'est interdit.
Oui, interdit par la préfecture pour des raisons de sécurité sanitaire. C'est vrai qu'a priori, les eaux sombres de la Seine, ça fait pas vraiment envie, et pourtant...
Depuis une quarantaine d'années, il y a des efforts considérables qui ont été réalisés. Jamais la rivière n'a été aussi propre qu'aujourd'hui.
Ça, c'est Vincent Auchet qui l'assure. Il travaille à la CIAP, qui est l'organisme chargé d'assainir les eaux. Il a pour mission notamment de limiter le plus possible le rejet d'eau non traitée dans la Seine. Et ça marche, il le mesure notamment au nombre d'espèces de poissons qui ont repris vie dans le fleuve.
Dans les années 90, on recensait à peu près une 14-15 espèces de poissons différentes. Et aujourd'hui, en 2015, on recense plus de 20 espèces différentes.
Alors, nager parmi les poissons, qu'en pensent les triathlètes? Ce sont les premiers concernés. Eh bien, Anne-Claire a participé au triathlon de Paris en 2012 lorsqu'il se déroulait encore dans la Seine.
On avait vu sur la Tour Eiffel pendant toute la course, donc ça c'est vraiment très très agréable.
Ah oui, le souvenir il fait carte postale, mais à l'époque l'organisation lui demande de signer une décharge parce que l'eau est jugée impropre à la baignade.
C'est vrai qu'on est habitué à faire attention à ne pas avaler l'eau.
Est-ce que vous pouvez voir au fond de l'eau ?
Alors, on peut pas voir au fond de l'eau, mais on voit ses mains, donc c'est déjà pas mal, on voit ses mains. On a plutôt rencontré des objets improbables, des canettes, des gobelets, voilà.
Voilà, plein d'objets très sympathiques. Pascal Bilstein, ancien directeur du triathlon de Paris, explique « Le risque zéro n'existe pas ».
Nous avons depuis des dizaines d'années l'habitude de nager dans la Seine, mais aussi dans beaucoup de fleuves et de lacs qui, techniquement, ne sont pas des bases de loisirs, ne sont pas nageables pour le grand public.
Les organisateurs d'un triathlon doivent donc faire des analyses de l'eau avant les courses et en informer les nageurs, avec en plus quelques conseils.
Il est difficile, évidemment, de pas boire la tasse, on boit jamais la tasse volontairement. Les règles, c'est évidemment d'être à jour de ces vaccins, parce que on peut aussi se blesser dans l'eau, une petite coupure, une égratignure. Et effectivement, nous devons recommander aux triathlètes d'être parfaitement à jour des vaccins.
Prudence donc, et la perspective d'enfants barbotants dans la Seine est encore loin d'être acquise. Alors, c'est plutôt rassurant quand même ce qu'on entend. Enfin, on entend qu'il y a plus de poissons, plus d'espèces de poissons qu'avant. Donc, finalement, la Seine, ça s'améliore vraiment. Ça s'améliore vraiment, c'est ce que disent les scientifiques. C'était une mission de la mairie de Paris aussi et de la région d'améliorer la qualité de ces eaux-là. Après, il faut vraiment faire une différence entre pouvoir s'y baigner, comme la maire de Paris, Anne Hidalgo, le promet après 2024, et pouvoir y faire des compétitions où ce sont des adultes qui participent à ces compétitions, qui sont tout à fait informés des risques. C'est pas pareil que autoriser la baignade à n'importe qui, notamment à des enfants, par exemple, qui sont plus soumis à des risques.
On imagine qu'avant les JO de 2024, il y aura quand même un triathlon Paris qui se fera à nouveau dans la Seine, il faut bien tester quand même avant les JO.
Eh bien, alors en tout cas, les organisateurs le veulent. Hein. Ils voulaient par exemple, là, cette année, le faire dans la Seine, mais finalement ça a été interdit parce que l'eau était encore jugée un peu trop sale, donc ça a été dans le lac de Choisy-le-Roi, où c'était pas forcément d'ailleurs une bonne idée parce que, comme c'est une eau stagnante, il y avait énormément d'odeurs, mais voilà, c'était la
mais décision. Mais il reste 9 ans, donc on pourra le faire d'ici là. Merci beaucoup Camille Gelpi. Et moi je vous promets qu'avant 21h, Christophe Cessieux se baignera dans le port du Havre.
Peut-être,
oui. Ah oui, bah, après tout.
Elle est beaucoup plus claire ici que dans la Seine.
Dans le port.
Pourtant, c'est la Seine qui vient ici. Hein. C'est l'estuaire de la Seine qui arrive au Havre. Donc, niveau pollution, on n'est pas loin quand même. Hein. On n'est pas loin du même niveau qu'à Paris. On va évidemment revenir dans quelques instants, Virginie, sur la poisse pour Tony Martin, le maillot jaune du Tour de France qui a chuté tout à l'heure à 1 km de l'arrivée. On prendra les dernières nouvelles du maillot jaune qui risque bien de ne pas repartir demain. Et puis on va faire un focus sur le nouveau maillot à poids de ce Tour de France, Tekle Haimanot. C'est un Érythréen, à vos souhaits s'il vous plaît. Maillot à poids, on reviendra évidemment sur son bel exploit puisqu'il s'est emparé du maillot de meilleur grimpeur. Voilà pour les débats, on vous attend évidemment au 32-16 et sur le hashtag RMC Live. On va tout vous dire dans un instant, juste après les infos 19h.
RMC, Intégral Tour.